toujours de ce conseil municipal, NEPA, fusion avec OPH ou non. L'ordre du jour de ce conseil municipal n'est pas non plus dépôt de bilan de CENI ou non. L'ordre du jour de ce conseil municipal, c'est quelle ambition nouvelle voulons-nous construire pour l'avenir, pour cette société, et je me permets de répondre ainsi à M. Montoya, vous dites qu'il n'y a pas d'analyse prospective. Si vous aviez bien regardé les documents, vous auriez vu qu'il y a une analyse jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023, déjà y revenir. Alors je vais essayer de reprendre les propos des uns et des autres, puisqu'ils se recoupent. Et j'espère que chacun trouvera la réponse qu'il peut attendre, en tout cas je le souhaite. Alors, la CENI est une petite structure, en effet. Elle est une petite structure, et je peux vous dire qu'il y a, en France métropolitaine et en France outre-mer, des structures comparables à la CENI qui fonctionnent parfaitement. Il y a même en France une structure avec 650 logements, et qui s'en sort très bien. Pourquoi ? Parce que ce patrimoine a été entretenu régulièrement. Régulièrement. Alors oui, j'ai eu l'occasion de dire, nous sommes confrontés dans un monde aujourd'hui où les regroupements sont foisonnants. C'est ainsi qu'on voit dessiner, sur un moyen terme, des structures en matière de société d'HLM avec 20 000, 30 000, 40 000 logements. Est-ce que vous souhaitez que nous intégrions une structure comparable qui, sur le plan national, nous ferons partie d'un grand groupe, nous ferions partie d'un grand groupe, qui, sur le plan national, gérerait 20 000, 30 000, 40 000 logements, dont 1 000 et quelques sur la ville de Tarbes, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer? Où est-ce que nous voulons aujourd'hui, après avoir procédé à une analyse sur les années passées et lointaines, je remercie une nouvelle fois M. Lagonel pour ses commentaires bienveillants à mon égard. Honnêtement, si on est là devant vous aujourd'hui, ce n'est pas pour payer les 15 années d'une soi-disant mauvaise gestion. C'est parce qu'on paye ce qui s'est passé depuis le début des années 1990. Où cette structure a fonctionné avec des déséquilibres structurels au niveau du compte de résultat quand on a analysé les revenus des loyers et les dépenses liées à la gestion locative, et que ces résultats négatifs étaient masqués par des plus-values réalisées sur des ventes tous les ans. Et parfois, il y a des plus-values importantes, il y a eu des années où la CENI a vendu 30 ou 40 logements, à l'époque où... la demande était importante. Et ça a permis, en effet, de masquer la vraie réalité. Un, le patrimoine lourd n'a jamais fait l'objet de véritables travaux de remise en état. L'exemple frappant, flagrant, c'est Bel Air. Pas de véritables travaux de rénovation depuis 50 ans. Donc, c'est le constat. Moi, je ne cherche pas à me dédouaner. Contrairement à ce que certains disent, je ne suis pas le PDG de la CENI. Je suis président du conseil d'administration. Il y a une directrice générale qui, tout à l'heure, apportera des précisions, et vous verrez, je crois qu'elles seront utiles. Alors oui, c'est une petite taille, oui, et je l'ai dit moi-même, vous enfoncez des portes ouvertes, hein. Les marges locatives sont insuffisantes, je le dis, depuis 25 ans, c'est comme ça. Et le poids de la dette, si vous voulez que l'on rentre dans les détails sur le poids de la dette est en effet important et sémi, puisqu'il dépasse 51% des loyers contre une moyenne nationale qui est de 47,4%. Oui, le poids est important. Mais c'est intéressant d'analyser les origines de la dette, et notamment, M. Palmade, de certaines dettes très importantes qui ont été contractées par la CENI pour le compte de la ville de Tarbes, parce que la ville de Tarbes ne pouvait plus emprunter. Et si ça vous intéresse, vous pourrez vous pencher sur... le poids de la dette qu'a représenté la résidence Pirenne derrière la mairie, et puis d'autres programmes qui ont été réalisés par la CENI à la demande de la ville de Tarbes et de son directeur général, qui à l'époque était en même temps le directeur général des services de la ville de Tarbes. Je ne veux pas revenir là-dessus, c'est pas intéressant de revenir sur les constats passés, mais les causes, je les ai dites lors du conseil municipal de septembre, j'ai tout expliqué en toute transparence, contrairement à ce que certains ont dit. Alors, tout cela, on connaît. Oui, il y a une insuffisance de financement qui est dégagée par l'exploitation pour faire face aux besoins de la CENI qui sont aujourd'hui les siens. En matière, relisez l'article 1000, l'article qui a été cité par le rapporteur tout à l'heure, 1523.6, dans lequel il est dit que les départements et communes peuvent seuls ou conjointement accorder à la structure des subventions exceptionnelles pour la mise en œuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celui qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions. Mais en même temps, quand tout cela est mis en œuvre pour assurer une activité de construction ou de gestion de logements sociaux correspondant aux attentes des locataires et de la collectivité. Et effectivement, c'est cela qui est en jeu. Aujourd'hui, nous avons deux programmes d'investissement qui sont envisagés. Le premier, c'est le programme sur lequel nous allons nous prononcer, puis il y en aura peut-être trois, mais c'est celui sur lequel nous allons, d'ailleurs deux essentiellement, c'est celui sur lequel nous allons nous prononcer, de la mise en œuvre de l'accompagnement de la CENI avec la Caisse des dépôts et consignations et la CGZS. Cette mise en œuvre va nous permettre, quoi donc ? D'engager dès 2016 près de 14 millions de travaux, 13,9 millions de travaux exactement, sur 524 logements. Sachant que le programme, M. Montoya, vous dit un peu de prospective, le programme porte sur plus de 800 logements dans la perspective 2023, avec un montant d'investissement envisagé de 24 millions d'euros. Et là, première étape sur laquelle aujourd'hui nous nous engageons, c'est l'étape 2016-2020 qui permettra, avec la mise en œuvre de l'ensemble des moyens qui ont été évoqués, d'arriver en 2020. Vous pouvez le regarder sur le tableau qui figure page 18 du rapport CG2LS. Vous regardez le tableau plat, page 18, et vous regarderez qu'en 2020, le potentiel financier de la CENI arrive à zéro, il est équilibré. Et qu'en 2021, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sans rien d'autre, en 2021, il passera à 790 000 euros. En 2022, à 1 427 000 euros. En 2023, à 2 121 000 euros, et ainsi de suite. Ce n'est pas nous qui avons inventé ces chiffres. C'est ce qui a été fait conjointement avec la CGZS, avec la Caisse des dépôts et consignations, et avec l'excellent travail qui a été accompli par la directrice et les services de la CENI auxquels je rendrai hommage tout à l'heure. Ce n'est pas du vent. Si vous considérez que ces chiffres sont de pure spéculation, que vous le direz. Mais moi, je dis que c'est un travail sérieux qui a été fait et qui prend en compte les mesures internes propres à la CENI, je vais y revenir, et qui prend en compte les mesures externes et les aides. Les mesures internes, quelles sont-elles ? Les mesures internes, vous avez, je crois, dans le rapport, eu tout le loisir de le lire en détail. La première, c'est d'essayer de remettre en œuvre une procédure de cession de logement, mais une procédure pas ambitieuse, puisqu'on a prévu 5 logements, à partir de 2016, si je ne me trompe. Nous avons prévu, dans les mesures internes, une exonération de la taxe foncière sur le foncier bâti, puisque les investissements qui vont être engagés dès 2016 concerne des investissements de rénovation énergétique auxquels sont donc attachés des droits d'exonération de taxes foncières pris en charge par l'État. Par l'État, enfin pas par le contribuable tarbé. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, l'État prend en charge tous les dégrèvements qui sont accordés en matière d'impôts fonciers ou de taxes d'habitation. C'est l'État qui les rend aux communes. Enfin, autre mesure interne, cette contribution dès 2017, puisqu'on aura une année de décalage, représentera une économie de 1 784 000 euros. Les mesures internes, les frais de fonctionnement qui ont déjà été mis en œuvre, les mesures internes avec les frais de diminution des frais de fonctionnement permettront de dégager sur la période 2016-2020 une économie de 1 066 000 euros. Ce qui fait que, au total, les gains sur les cessions sur la période 2014, 2015, 2020, les gains sur les exonérations foncières représenteront 2 825 000 euros, auxquels on va ajouter les aides de la région sur les rénovations énergétiques, je ne sais plus quel montant par logement, Madame la directrice vient tout à l'heure, la subvention de la CG2S, 2 704 000 euros, et le complément de subvention de la ville de Tarbes, 220 000 euros par an, tel que cela a été évoqué. Et tout cela permettra de faire face au plan de financement de plus de 10 millions d'euros sur la période 2016-2020. Je vais revenir aux questions qui ont été, aux points qui ont été soulevés. Comprenez bien que si la Caisse des dépôts et consignations, la CG2LS et tous les partenaires, le 30 avril dernier, ont adopté le rapport de la CG2LS sans réserve, c'est que tout cela est considéré comme crédible et que les mesures mises en œuvre par la CENI sont considérées comme crédibles. Et la preuve de la crédibilité des mesures déjà mises en œuvre par la CENI depuis 2014, depuis 2013, c'est le résultat de l'exercice 2014. Le résultat de l'exercice 2014 qui va être soumis demain matin au conseil d'administration de la CENI pour approbation, après contrôle du commissaire aux comptes. Le résultat de l'exercice donc 2014 s'élève à 558 376 euros contre 155 000 l'année précédente. Si on ajoute à ces 558 000 euros les amortissements qui s'élèvent à 1 336 000, vous aurez une idée de la capacité financière. Oui, monsieur le financier, vous pouvez deviser, on vous entendra tout à l'heure. C'est plus facile de regarder, de critiquer que d'être aux manettes. Ceci étant, ce résultat représente 8,7% du chiffre d'affaires 2014 de la CENI. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'organismes d'HLM, y compris l'OPH, je n'ai pas les comptes 2014 pour l'instant, puissent dégager un résultat net, après impôt, de 8,7%. Donc, l'amélioration est sans, avec une seule vente en 2014. Ce résultat avec une seule vente. Donc, ce n'est pas lié aux plus-values de cession. Donc, ce résultat vient crédibiliser. S'il vous plaît, je vous ai écouté, je vous demande de faire la même chose. Ce résultat vient crédibiliser le plan qui a été élaboré avec ses partenaires. Je continue. C'est toujours en répondant aux interventions. Le PNRU, puis ensuite l'OPH. Ça, je répondrai à plusieurs. Alors, oui, la CENI s'est inscrite et avec enthousiasme sur ce nouveau projet de rénovation urbaine, tel qu'il a été préposé. Oh, on est loin, les ambitions du plan Borloo en Indre-et-Loire. Hein, je rappelle que c'était 28 millions d'euros qui ont été déversés de subventions sur l'agglomération tarnaise avec le plan Borloo ici. Et on ne sait pas combien ce sera. Ce sera 33 millions sur toute la région avec peut-être 10 de plus. Bon, on verra. En tout cas, on ne sait pas aujourd'hui combien la CENI pourra se voir attribuer comme accompagnement dans ce projet ambitieux dont je parlais tout à l'heure. Mais la CENI, avec enthousiasme, elle a fait acte de candidature. Pourquoi ? Parce qu'elle a contribué d'abord, je le rappelle, à la rénovation urbaine du quartier Nord, avec ce qui s'est fait sur les anciens abattoirs. Si vous vous souvenez, en 2001, dans quel état étaient les anciens abattoirs, juste en face du siège du Grand Arbre, aujourd'hui, vous avez oublié tout cela. C'est la CENI qui a rénové tout ça et qui a construit ces logements avec les conséquences financières qu'on peut évoquer, qui ont été négatives, je dois le dire, pour la CENI. Cet engagement sur le quartier Nord a été négatif financièrement pour la CENI, puisque on nous avait conseillé à l'époque de nous engager sur des programmes PSLA, c'est-à-dire location-accession, dont le manque de réponse de la part de futurs acquéreurs a fait qu'on a été obligé d'obtenir une autorisation sur 2014 de transférer 13 maisons qui restaient en stock et de les transférer de stock en immobilisation pour pouvoir les louer en logements sociaux. Tout ça, que vous le sachiez, si ce n'est pas fait tout seul. Alors oui, on est candidat dans le groupe NRU parce que cela va nous permettre, je l'espère, de présenter un plan enfin de rénovation, je dis bien rénovation, pas réhabilitation, de rénovation du site de Bel Air. Et je vais vous faire une confidence. J'espère que les travaux et les réflexions qui ont été engagées par la directrice, son équipe, le dossier qu'elle a commencé à réunir et les esquisses qu'on a pu voir, ce qui se faisait ailleurs et ce qui pourrait se faire à part, j'espère que cela pourra se traduire demain par une réalité sur le site de Bel Air. Parce que si ça se traduit par une réalité, non seulement ce quartier totalement enclavé va connaître un désenclavement et verra une rénovation des bâtiments qui appartiennent à la CENI, ils ne sont pas tous à la CENI, avec une rénovation particulièrement originale, ambitieuse, et qui changera totalement l'image du quartier. Ceci étant, cette ambition qui est affichée là, elle sera en fonction des aides qui seront attribués dans le cadre de ce PNRU. Il est évident que si c'est pour obtenir 3 millions d'aides, eh bien, les travaux de rénovation qui consistent vraiment en rénovation lourde et changement total de l'aspect des bâtiments de la CENI, ben, ce projet, on sera obligé d'abandonner. Mais oui, nous sommes candidats aujourd'hui. Et que trouvons-nous en face de nous ? Nous avons l'OPH qui est candidat, mais sur deux autres sites. Le candidat qui est OPH qui est candidat sur la rénovation de l'Ofit à Lourdes, ce que je peux comprendre, tout à fait légitime, et qui est également candidat à une rénovation sur Sol Azur, donc là, on ignore totalement et le contenu et le fondement en matière d'aménagement urbain, mais peu importe. L'inconvénient, c'est qu'il y a trois projets sur le département de Pyrénées, qu'il y aura une seule aide qui sera attribuée sur le département, et donc, on peut comprendre qu'avec trois projets, l'aide qui sera accordée à l'un ou à l'autre risque d'être insuffisante pour faire face à des projets ambitieux. Donc, oui, nous sommes candidats et nous verrons quelle sera l'ambition qui sera la nôtre en fonction des aides qui nous seront octroyées pour l'accompagnement de ce projet. Et bien évidemment, comme c'est convenu, nous en sommes parfaitement convenus avec nos partenaires, la CDC et la CG2LS, si notre programme dans le cadre du PNRU est retenu, il y a une clause de revoyure qui est dans la convention que nous signerons et qui intégrera bien évidemment ces nouveaux investissements sur les années à venir avec en face des financements qui intégreront, je le souhaite, des subventions significatives de l'État et de la région dans le cadre du PNR. Alors, l'OPH, oui, j'ai dit que je n'étais pas hostile à une collaboration avec l'OPH, notamment sur la rénovation du quartier Bel Air. J'ai dit, en effet, quand on en a parlé en septembre, qu'on pouvait envisager une collaboration sur la réhabilitation de ce quartier, il y a quand même 228 logements, je crois, c'est pas rien. Combien 210 228. C'est bien ça. 228 logements, donc c'est pas rien. Nous pouvions tout imaginer. D'abord, en septembre, je ne savais pas quelles seraient les capacités dont la CENI pourrait faire preuve dans le court terme. Maintenant, avec l'arrêté des comptes de 2014, on a un peu plus de visibilité. Ce qui n'empêche que nous sommes toujours ouverts à toute collaboration. S'il y a un programme Solazur, Bel-Air, Hellofit, je veux dire, il y aura obligatoirement une collaboration, des discussions qui seront à mettre en œuvre pour voir quelles sont les priorités, notamment en termes d'aménagement urbain, que le département, la préfète, l'État, la ville de Tarbes, et j'espère les élus de notre comité d'agglomération qui ont aussi son mot à dire, puisque c'est elle qui porte le PNRU. Nous verrons à ce moment-là, dans le cadre de ces discussions, comment tout ça pourra s'articuler. Mais la fusion de la CENI avec l'OPH, c'est non. Il n'en a jamais été question. Et j'ai même eu l'occasion de dire que tant que je serai maire de Tarbes, la ville de Tarbes soutiendrait la CENI pour qu'il n'y ait pas de fusion. Ensuite, je l'ai dit, je le répète, il s'agit d'une société de droit privé, avec des actionnaires privés, qui sont essentiellement des banques, et les banques auront, si demain il y avait un projet de ce type, qui devaient être étudiés, auront légitimement leur mot à dire sur l'évaluation de la CENI. Enfin, autre remarque, l'OPH, engagé sur Solazur, engagé sur Londres, l'OFIT, je vous le dis ici, n'a pas les moyens, en même temps, de s'engager sur la CENI. Je le dis parce que c'est la vérité. J'ai fait procéder, je l'ai dit en septembre, à une évaluation des actifs de la CENI. Il y a ici des gens qui connaissent quelque chose aux chiffres. L'évaluation des 1238 logements, cette évaluation a été faite le 30 juillet 2014. L'évaluation représente pour 73 449 mètres carrés habitables une somme de 83 millions d'euros. Soit une moyenne de 67 000 euros par logement. Vous voyez, c'est pas démentiel. 67 000 euros par logement, c'est pas démentiel. Il y a des logements, si on regarde en valeur, qui sont à 800, 720 euros au mètre carré, et d'autres qui sont à 1300, selon la nature et la qualité de logement. Ce qui me permet de dire en même temps que le patrimoine de la CENI, contrairement à ce qui a été dit, n'est pas un patrimoine dégradé. C'est un patrimoine qui a une moyenne de une durée moyenne de vie de moins de 22 ans. Non ? 24,6. Et si on enlève l'air, on tombe sur une durée moyenne de moins de 20 ans. Donc on ne peut pas dire que l'ensemble du patrimoine est dégradé. Oui, une partie du patrimoine est dégradée, celui qui n'a pas fait l'objet de rénovation lourde depuis 50 ans. Ensuite, je répète, l'OPH n'a pas les moyens de procéder à une OPH sans faire le jeu de mots. OPH, OPA, opération programmée d'acquisition de la CENI, car aujourd'hui, la valeur nette de l'actif s'élève à la situation nette, s'élève à 8 282 000 euros, auquel il y aurait lieu d'ajouter une plus-value, puisque les immobilisations sont évaluées en valeur nette à 43 millions. Comme on a une évaluation à 83 millions, je ne vois pas qui pourrait c'est-à-dire banco, la situation nette actuelle de 48 millions auquel il faut ajouter une plus-value de 40 millions, j'achète pour 48 millions la CELI. Voilà, je crois qu'il faut être sérieux, c'est inenvisageable. Ensuite, Marie-Pierre Vieux, vous avez raison, c'est précisément parce que nous voulons répondre aux exigences légitimes des TARPEC et des locataires de la CENI que nous nous engageons dans cette démarche. Avec les premiers investissements dans les 13 millions d'investissements qui vont être engagés entre 2006 et 2020, c'est essentiellement des travaux de rénovation énergétique et notamment sur, je l'ai dit, 524 ou 528 logements, je peux chiffrer en tête, essentiellement sur le patrimoine qui, aujourd'hui, en a besoin et qui répondra ainsi aux attentes des locataires qui verront leurs dépenses d'énergie se réduire. La mutualisation avec d'autres organismes, je crois avoir répondu en partie. Quant à l'évolution du périmètre, c'est une bonne remarque. Nous y avons réfléchi. Et il y a 3 ans au moins, 3-4 ans, non seulement nous avons souhaité étendre le périmètre de la CENI, mais également le périmètre de ses activités. Puisque nous avions un projet de création d'une filiale avec la CEPA, et cette filiale s'appelait la CEMA, création d'une société nouvelle, commune, entre CEPA et CENI, CEMA, et qui avait pour objectif d'élargir le champ d'action de la CENI, notamment dans le domaine de l'aménagement urbain. Et dans le domaine de l'aménagement urbain, au-delà du périmètre de la ville de Tarbes. Et si je puis me permettre, j'ai pensé qu'à l'époque, les choses auraient pu être possibles, pas plus facilement qu'aujourd'hui, c'est certain, puisque j'avais l'honneur d'être en même temps le président de la communauté d'agglomération. Et que la CENI pouvait répondre à des appels d'offres de communes de l'agglomération ou d'ailleurs, qui auraient pu lui permettre, en collaboration avec la CEPA, de travailler sur des projets d'aménagement, quels qu'ils soient. On a vite constaté que ce rêve était une illusion, parce que tant que dans la CENI il y avait la ville de Tarbes majoritaire, et que tant que dans la ville de Tarbes il y avait le maire de Tarbes qui est ce qu'il est, il était inimaginable que telle ou telle commune de l'agglomération puisse confier des travaux d'aménagement à une filiale de la ville de Tarbes, dont parfois le maire de Tarbes était le président du conseil d'administration. On a vite compris que cette piste, malheureusement, qui était une piste intelligente sur le plan économique, s'est heurtée au mur de l'ostracisme politique. Donc, oui, on y a pensé, à l'élargissement du périmètre et des compétences. Les réponses qui ont été apportées, Marie-Pierre, le problème que vous avez évoqué, je l'ai dit, elles ont été apportées par les ventes. Depuis plus de 25 ans, les ventes ont masqué, même parfois les plus importantes, la réalité du vrai problème, et il suffira, si ça vous intéresse, je vous demanderai si certains le souhaitent, de manière exige, de vous lire des extraits du rapport de la Milos sur les années 90, 95, 99, ou suivant. Non, mais si tu les as pas là, c'est pas grave, je les transmettrai si quelqu'un les souhaite. Et vous verrez bien que ce que je viens de dire là, c'est pas moi qui l'invente, c'est déjà dans les rapports de la Milos, y compris sur la situation financière de la CENI, même quand elle dégageait des excédents liés aux plus-values. Enfin, l'avenir des salariés de la CENI, croyez-le moi, c'est aussi un de nos problèmes, une de nos préoccupations. Et je voudrais dire quelques mots sur l'engagement tout à fait remarquable de ces salariés depuis quelques temps, et en particulier depuis les derniers mois, où la pression a été extrêmement forte dans tous les domaines, où manifestement ce personnel a compris quel était l'enjeu présenter à nous tous. C'est l'avenir, certes, de la filiale de Tarbes, la CNI. C'est aussi l'avenir de leur propre emploi, mais en même temps, l'avenir de l'offre de l'agence de logements sociaux qui est proposée aux Tarbaises et aux Tarbais par la ville de Tarbes, par leur intermédiaire. Et leur engagement, je peux le dire, a été et est un engagement exemplaire, comme il a été remarquable, et celui de la directrice en particulier, dans la mise en œuvre de tous les outils dont on a eu besoin pour mettre en œuvre en collaboration depuis de longs mois avec la CGDSS, avec la Fédération, avec la Caisse des Dépôts, ces plans qui vous ont été présentés et dont la crédibilité n'est absolument pas à mettre en doute. Donc, notre souci, c'est d'assurer la meilleure offre possible de logement à nos concitoyens, le meilleur bien-être à nos collaborateurs et les meilleures réponses en matière d'aménagement urbain à la ville de Tarbes grâce à l'engagement de la CENI sur les projets de grosses rénovations qui seront, je le souhaite, mis en œuvre dans les prochaines années dans le cadre du PNRU. Monsieur Montama, je vais éviter à cette assemblée d'expliquer les tableaux qui sont ici, mais si certains le souhaitent, je le ferai volontiers, mettant en évidence ce que l'on appelle le potentiel financier, le besoin qu'on a à couvrir, et qui s'élève donc à 4 45 000 euros. Je vais essayer de simplifier en prenant l'image, parce que l'essentiel vient de là, en fait. Quand on réalise un programme immobilier, on peut prévoir un programme immobilier de 1000, accompagné d'un plan de financement de 800, par exemple, avec un financement, peu importe le taux, sur 25 ou 30 ans. Et on peut avoir en face des amortissements techniques qui peuvent être des amortissements sur 20 ans, 25 ans, ou même différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, nous avons voté ici quand on nous a demandé de revoir des amortissements de l'ensemble des immobilisations, des amortissements du potentiel immobilier. Et à cette occasion, il y avait des recommandations qui étaient données, et il y avait des recommandations qui disaient que certains investissements pouvaient même être amortis jusqu'à 50 ans. Et donc, des plans d'amortissement ont été revus, sans doute par une dizaine d'années. Des plans d'amortissement ont été revus. Ce qui veut dire qu'on a pu dégager des amortissements comptables qui ont été inférieurs au remboursement financier, c'est-à-dire au montant du remboursement du capital. Et, ou à contrario, que les amortissements étant inférieurs au remboursement du capital, il faut aujourd'hui compenser, quand l'amortissement financier est supérieur, il faut compenser le manque d'amortissement par ce que l'on appelle le besoin en potentiel fiscal qui a été évalué en 2020 à 4 millions 45 000 euros. Et vous avez vu dans le tableau que ce potentiel est complètement absorbé, équilibré en 2020 avec des économies qui sont faites.